Toute la semaine, la place est comme ça?
Oui, oui, oui. Du lundi au vendredi, il y a un gros tas de déchets là pour l'instant. Et c'est pas spécialement des gens de l'extérieur, hein, c'est vraiment des gens de la place ou d'un peu plus loin qui viennent et qui mettent leurs déchets là.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi, les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode-ci va parler du décalage entre nos quartiers.
Quel quartier comme ça, en fait? On peut pas s'y habituer parce que c'est dégoûtant, mais c'est comme ça. On sait que le lundi matin, quand on arrive, on va voir le tas de détritus là-bas.
Est-ce qu'il y a des quartiers d'écolos et des quartiers qui ne sont pas du tout? Des quartiers de ville où on se réveille dans la verdure et les panneaux solaires et d'autres dans les ordures. Des quartiers où on milite pour le climat et d'autres pas. Bon, c'est une caricature, mais s'il y a des décalages, c'est dû à quoi? Par où commencer? Alors, pourquoi pas par ici? Je suis à Audimont, c'est un quartier de Verviers qui a été inondé l'été dernier, donc victime du changement climatique. Mais c'est aussi un quartier qui a l'air, à première vue en tout cas, assez peu actif face au changement climatique. On voit peu de vélos, on voit peu de voitures électriques, peu de panneaux solaires. Et c'est aussi le quartier de Verviers où les revenus sont les plus bas.
Bien, monsieur, il faut le dire. Ouais.
Vous connaissez les règles, toi?
Ouais, je connais. Ouais.
J'ai interrompu une partie de poker menteur à la maison des jeunes.
Lui, c'est pas un menteur, c'est un arnaqueur.
Bah, c'est lui qui gagne à chaque fois, donc.
Ils m'ont proposé de jouer, mais j'aurais perdu, donc j'ai dit non. Ou alors pire, j'aurais gagné et on aurait pu me dire que ça prouve que les journalistes sont des menteurs. Bref, j'ai pas pris de risque, on a tout de suite parlé d'environnement.
Si tout le monde fait des petits gestes de ce côté, je crois que l'environnement peut mieux s'en sortir. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même besoin de beaucoup d'argent pour faire une nouvelle planète, si je peux dire. Si un milliardaire veut vraiment faire un gros projet pour la planète, évidemment, ça peut marcher parce que lui, il a des personnes, il a les sous pour le faire, quoi. Alors qu'un mec lambda qui n'a pas forcément d'argent, lui, il fait des petits gestes de son côté, c'est bien pour la planète. Mais est-ce que ça va changer la planète? Non.
Est-ce que vous vous déplacez à vélo, par exemple?
Non, non. Au bus ou bien à pied ou en voiture avec les parents, c'est tout. Je sais pas, je préfère marcher, moi, de mon côté. C'est mieux et faut payer pour avoir un vélo.
Et vous, pourquoi vous ne déplacez pas à vélo?
Parce que je ne sais pas en faire, tout simplement. Je suis honnête, je ne sais pas en faire, on ne m'a jamais appris.
Pourquoi tu ne vas pas faire du vélo?
Ouais. Bientôt, il n'y aura plus de voiture avec de l'essence. Et je trouve que ce sera nul.
Pourquoi?
Ce sera trop futuriste. Ce sera nul pour nous et nos futurs descendants.
Pour moi, dans le futur, les gens n'auront plus la possibilité d'acheter des voitures, car déjà l'électricité coûte cher. Et j'ai l'impression que les gens iront plus dans les transports en commun et ne prendront plus la voiture parce qu'ils n'auront même pas la possibilité d'en acheter une.
Donc il y a des gens qui auront la possibilité d'en acheter une et de payer l'électricité plus cher et d'autres pas, c'est ça?
Oui, les riches, ceux qui ont un salaire assez élevé, auront la possibilité d'avoir ce luxe-là. Et je trouve que c'est dommage.
On a beaucoup parlé des jeunes qui manifestaient pour le climat et tout ça. Est-ce que vous êtes allé manifester ou est-ce que vous avez pensé à aller manifester?
Non, j'ai pas été moi.
Moi, j'ai pas été non plus, mais après, pour moi, c'est juste une excuse pour sécher les cours, soyez honnête. La moitié et trois quarts, ils sont allés là juste pour pas faire cours, juste pour. C'est juste une excuse. Comme c'est les jeunes, je crois pas qu'on va les prendre en sérieux. On va plus prendre au sérieux des gens qui vont se manifester pour des adultes et tout, que des jeunes. Imaginez un peu sortir dehors, crier, avoir des pancartes. Bah, il y en a qui ont pas envie. Ils sont pas envie. Ils peuvent très bien manifester sur les réseaux, comme plein de gens le font.
Wesh!
À l'heure d'aujourd'hui, je pensais plus à mon avenir actuel, à moi, mes choix professionnels, à mes objectifs que j'ai envie d'accomplir. Et effectivement, tout ce qui touche à l'écologie, ça ne sont pas dans mes objectifs actuels. Peut-être que par la suite, je ferai plus de démarches, mais voilà, pour l'instant, ça me suffit. Là, j'ai déjà assez de préoccupations pour devoir encore, entre guillemets, m'en rajouter.
En écoutant Tony, Bilal ou Lio, je me rends compte que les infos sur les gestes écologiques, ils les ont eus, de l'école, de la maison des jeunes ou d'associations du quartier. Pourtant, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact. J'ai voulu sentir l'atmosphère d'un autre quartier, ici à Versailles. Versailles, pas en France. Versailles, à Neder, en région bruxelloise. C'est moins la vie de palais. Ici, les revenus, ils sont parmi les plus bas de Bruxelles. Le chômage, y concerne 42% de la population active. Ce sont 790 logements sociaux. Mais ceux qui s'arrêtent à ça n'ont rien compris, m'explique en deux mots Rania Benamou, 21 ans.
Il y a beaucoup de bonnes personnes. Et en habitant là depuis très longtemps, c'est plus un quartier, c'est une famille. On grandit avec eux, on les voit tout petits, ils nous voient tout petits, on les voit grandir, on les voit se marier, on les voit revenir avec des enfants, donc c'est chaleureux et je trouve ça chouette, vraiment. C'est ici le banc où les papas venaient ici boire du petit thé le soir avec tous les papas du bâtiment.
Son bâtiment, c'est le plus haut du quartier, il est humide et il est très chaud en été.
Et pour les poubelles, ben, elles sont là. On y va.
Je peux t'interviewer aussi, parce que je suis star.
Alors à ce moment-là, il y a un voisin qui vient se mettre devant le micro.
Comme Naomi Campbell, comment elle s'appelle, Ariana Grande.
C'est un peu drôle parce qu'il se met à parler de stars très glamour, mais juste devant le local poubelle qui fait beaucoup moins rêver. Et c'est cet endroit-là que Rania et sa voisine Noëlla Boisa voulaient me montrer ses conteneurs remplis et remplis n'importe comment.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poubelles noires.
Donc 8 poubelles pour des déchets non triés. Ouais. Combien pour les déchets triés plastiques ?
Une.
Combien pour les déchets triés papier ?
Pareil, une seule. Comme vous pouvez voir dans cette poubelle, typiquement, dans la poubelle noire, ben, y a des cartons. Alors que normalement, il ne devait pas y avoir que des cartons. Ce niveau local poubelle, il n'est pas très sécurisé, il n'est pas très propre. Et c'est pour ça, je pense que le triage des poubelles ne se fait pas.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, hein. Alors là, c'est vraiment la tempête, donc on décide de continuer la conversation dans un local que nous propose Tom, travailleur social. C'est lui qu'on entend là, avec son rire très communicatif.
Ouais, parce qu'on a une branche.
On s'installe au calme et ça me permet d'entendre Noëlla expliquer qu'elle étudie l'architecture et qu'elle aimerait dessiner des façades vertes pour son quartier. Et Rania me parlait de ses idées pour rendre Versailles plus durable et ses voisins plus actifs.
C'est vraiment un effet de groupe. Il faut oser, mais pour le moment... Il n'y a rien de tout ça, je dirais. Il faudrait qu'on les pousse un petit peu, je pense.
Et quels arguments ? Qu'est-ce qui marcherait pour convaincre ?
Je dirais le téléphone arabe, peut-être. Si je dis à mon père, ouais, papa, va dire à tes copains de sortir à faire du vélo, pourquoi pas ? Ben, il inviterait tous les papas du bâtiment et il partirait faire un tour en vélo, juste pour le fun, juste pour s'amuser.
Bon, on pourrait lancer aussi des activités. Par exemple, tous les samedis, on irait faire des balades en vélo.
Si je propose un atelier dessin au parc pour les petits ou un atelier aîné, comme Noëlla avait fait les étés passés, il y avait du monde, les gens sont venus, les gens m'ont aimé. C'est du partage et du plaisir en même temps.
Et aussi pour le tri, on peut peut-être plaquer des pancartes sur les poubelles. Parce qu'on a des poubelles couleurs, mais même ça, c'est pas respecté. Du coup, ce serait bien d'avoir une indication.
Si on réduit les déchets, ce serait top, hein, vraiment. Ouais. J'applaudirais vraiment.
Et par exemple, toi, tu t'intéresses, tu as écouté des choses sur le changement climatique, etc. C'est un dossier que tu suis ?
Quand j'ai le temps, sur les réseaux sociaux en ce moment, ben, je regarde beaucoup d'infos sur ça. Comme il y avait une fille, je ne sais plus son nom, Greta Thunberg, c'est ça. Une blonde comme ça. Et ben, elle, c'est elle qui m'a fait en fait un petit déclic. Et depuis, ben, je la suis sur les réseaux et je regarde de temps en temps ce qu'elle fait. Elle fait vraiment réveiller les gens. Elle est jeune, je pense qu'elle est plus jeune que moi. Elle a une force incroyable quand elle parle avec assurance et c'est ça que j'admire chez elle. J'ai l'impression qu'elle a vu tout ce qui s'est passé sur cette planète et c'est ça qui m'a fait un petit déclic et qui m'a donné envie d'en apprendre un peu plus. Attends, on va trouver une photo d'elle. Elle est là, avec le bonnet rose. Mais je suis sûre que tu l'as déjà vue à la télé.
À Versailles, des nouveautés sont annoncées. On parle d'un contrat de quartier, donc réaménager les espaces publics, et un plan climat qui prévoit la rénovation de ces logements. Est-ce que dans ces cadres-là, Rania et Noëlla seront entendues ? Elles ont l'air de pouvoir soulever des montagnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de fait, une montagne à soulever pour que Versailles ou Audimont deviennent des coins plus durables ?
Salut !
Salut ! J'ai posé cette question-là à Céline Ibenoïs. Elle est secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. Son travail, c'est de faire entendre les préoccupations sociales.
Les populations qui vivent ces quartiers ont des priorités aujourd'hui sociales et économiques qui sont évidentes. Ça veut dire que quand vous ne savez pas de quoi demain sera fait, quand vous ne savez pas si vous pourrez continuer à vivre dans votre logement, si vous allez être expulsé, si vous allez pouvoir nourrir vos enfants correctement, etc., c'est sûr que la planète passe au second plan, pas par égoïsme, mais par survie. Aujourd'hui, être en difficulté socio-économique nécessite de déployer énormément de temps et d'énergie pour pouvoir survivre. Et donc c'est du temps qu'on n'a pas pour se préoccuper d'autres phénomènes plus extérieurs à la survie.
Alors on dit parfois qu'il suffit de petits gestes déjà pour rentrer dans cette dynamique de préservation de la planète, trier ses déchets, rouler à vélo. Ces petits gestes, on les voit moins dans un quartier comme ceux-là. Pourquoi ?
Alors, c'est l'occasion de dire qu'il y a les petits gestes et puis il y a les grands gestes. Ça veut dire que les personnes qui vivent la précarité disent souvent qu'elles ont l'impression de contribuer plus que d'autres à la survie de la planète. Parfois par défaut, ça veut dire que c'est des personnes qui voyagent très peu, c'est des personnes dont la mobilité est assez réduite, la mobilité même dans la ville. Hein. Souvent, c'est des personnes qui chauffent peu, avant tout parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer beaucoup plus. C'est aussi parfois des personnes qui, dans leur consommation, se limitent, font toute une série de choses par elles-mêmes, réparent plus parce qu'il n'y a pas les moyens, en fait, de consommer. Et donc, c'est un phénomène, je trouve, assez injuste. En effet, il y a des personnes qui roulent avec des vélos électriques, qui vont acheter du vrac, etc. C'est des petits gestes qui, aujourd'hui, sont presque à la mode, très valorisés, tandis qu'un mode de vie d'une simplicité presque irrationnelle, ou en tout cas indigne, moi je dirais, ça, c'est absolument pas valorisé.
Elle dit qu'en attendant, être pointé du doigt, c'est culpabilisant.
Il y a une culpabilité parfois de ne pas pouvoir répondre à ces gestes-là, à ces gestes visibles. Les enfants aujourd'hui reviennent de l'école avec des revendications écologiques. Et par exemple, sur le tri des poubelles, on n'a pas réfléchi, quand on a mis cette mesure en place, à la question du coût que ça allait être pour chaque ménage. Donc ces sacs poubelles ont un certain coût. En Belgique, on a au moins un quart des personnes qui vivent des difficultés socio-économiques importantes. Donc déjà, au moins pour un quart de la population, c'est une difficulté. Et donc, la réflexion sur l'écologie, si elle n'est pas éminemment sociale, elle va créer de nouveau une deuxième fracture dans la société. On aura la fracture socio-économique, puis on aura la fracture écologique, avec les uns qui peuvent, les autres qui ne peuvent pas. Et donc, la référence qu'il faut avoir en tête, c'est telle mesure, comment va-t-elle impacter et va-t-elle être soutenable pour une mère célibataire ou une famille monoparentale. Il faut prendre comme référence ultime et absolue le plus fragile de notre société. Et si ça fonctionne pour le plus fragile, ça fonctionnera pour tout le monde.
Mais aujourd'hui, c'est pas tellement comme ça que ça marche. Les décisions politiques liées au climat, comme trier, rouler électrique, impliquent souvent de devoir payer plus. Et puis en échange, on crée des fonds pour aider ceux qui ne parviennent pas à payer. C'est le système qui est prévu dans le plan européen pour le climat, par exemple le Green Deal, s'il entraîne une augmentation du chauffage ou du carburant. Céline Huneuse constate que c'est pas un système idéal, puisque pour plein de raisons, de très nombreuses personnes en difficulté ne parviennent pas à toucher ces fonds auxquels elles ont droit. Alors comment on se sent quand on a déjà trop peu de sous et qu'on voit arriver coup sur coup des mesures qui risquent d'encore coûter ? Ici à Louvain-la-Neuve, il y a un professeur d'université qui se pose ces questions-là, un psychologue qui étudie précisément le mal-être lié au changement climatique. Il s'appelle Alexandre Ehren à l'UC Louvain.
Une série de personnes ont pris la peine de nous envoyer des courriels pour faire part de leur expérience où effectivement les préoccupations, les peurs et les émotions difficiles qu'elles ont par rapport au changement climatique n'est pas tellement une peur de la fin du monde, une peur qu'il n'y ait plus de biodiversité ou que la nature soit complètement dévastée, mais bien plus une peur par rapport à leur vie au quotidien, c'est-à-dire une peur de ne plus pouvoir payer leurs factures d'électricité, une peur de ne plus pouvoir garder leur emploi parce qu'effectivement si elles doivent se déplacer en voiture, ça peut devenir difficile pour elles.
Quand on a ces peurs liées à une situation financière, et qu'elle se dégrade encore par des décisions politiques, par exemple, qu'est-ce que ça peut donner au niveau émotionnel ?
Si on est effectivement sous pression, tendu, qu'on a de moins en moins de possibilités de respirer quelque part, qu'on se sent pris à la gorge, l'émotion qui vient en premier, c'est de la colère. On ne peut plus s'adapter, on ne peut plus se développer tel qu'on voulait le faire, exister tel qu'on veut le faire, et donc la colère va se manifester. Et c'est tout à fait normal. Si on a quasi plus de ressources, qu'on n'a plus d'argent pour faire quoi que ce soit, Qui ne ressentirait pas de la colère, j'ai envie de le dire, ce serait bizarre. Par contre, ce qui est important ici, je pense, c'est les décideurs politiques d'être conscients de cela, que la transition ne va pas être la même pour tout le monde, que tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. Il faut absolument garder ça à l'esprit.
Sur le chemin du retour, mes idées s'agitaient comme les dés du poker de la Maison des Jeunes. D'abord, l'idée que l'apparence d'un quartier ne reflète pas sa pollution réelle. Et puis l'idée que certains gestes qui ont l'air petits peuvent être compliqués à faire dans les familles vulnérables. L'idée aussi que les décisions politiques basées sur ceux qui gagnent bien leur vie laissent des gens de côté et qu'être laissé de côté nourrit la colère. J'avais juste rassemblé tout ça quand est paru un nouveau rapport du GIEC sur le climat.
Les experts du GIEC viennent de publier leur dernier rapport sur les conséquences du changement climatique et ce rapport est alarmant.
Ce qu'on a vu à Audimont ou à Versailles, eh bien les experts de 195 pays constatent que c'est une réalité partout dans le monde. Les personnes qui manquent de ressources sont souvent plus exposées que les autres aux effets du changement climatique. Or, elles ont aussi moins de possibilités d'y réagir. Ces experts disent que si on veut un changement profond et partout, mais il faudrait que les mesures soient justes. Est-ce que ces appels sont entendus par les commissaires européens, ceux qui proposent les futures mesures européennes pour le climat ? Oui, m'avait assuré l'an dernier le commissaire Frans Timmermans.
Si cette transition est perçue comme une transition qui aide les riches aux dépens des pauvres, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Donc on sait très bien à la Commission que nos propositions doivent être équitables, solidaires, sinon elles passeront jamais.
En retombant sur cette interview, je me dis que si cet engagement n'est pas respecté, Greta Thunberg ne sera sans doute pas la seule à rappeler à l'ordre les décideurs européens. Il y aura peut-être aussi d'autres jeunes à qui elle a transmis de l'aplomb, manifestement, comme Rania à Versailles. Non, pas Versailles de Palais, l'autre, moins palace, mais plus vivant. C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.